Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toucher Terre. Je suis très heureuse de vous retrouver après la coupure estivale, en espérant d'ailleurs que vous en avez profité pour découvrir avec nos deux associations partenaires la nature eurélienne. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val de Loire et Eure-et-Loire Nature seront encore à nos côtés cette saison et croyez-moi, ils sont loin d'avoir fait le tour de leurs actions et des milieux naturels qu'ils étudient et qu'ils protègent. Preuve de l'activité soutenue de nos deux associations amies, des félicitations sont de rigueur pour ouvrir ce 30e numéro de Toucher Terre. 30, c'est aussi le nombre d'années fêtées le 25 septembre dernier par Eure-et-Loire Nature, à laquelle nous souhaitons un très joyeux anniversaire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter l'entretien que m'ont accordé son président Joël Auboin et l'un des ornithologues bénévoles de l'association Michel Doublé. Félicitations aussi à l'antenne eurélienne du Conservatoire d'espaces naturels qui ajoute un site à la liste déjà bien pourvue des milieux qu'il préserve. Il s'agit du 32e site en Eure-et-Loire, nommé le Cros-Marbeau, qui se trouve sur la commune de Marboué au nord de Châteaudun. Un site d'importance puisqu'il comprend notamment des dizaines de kilomètres de galeries qui abritent des centaines de chauves-souris de 8 espèces différentes. Dès que possible, chers auditeurs, comptez sur moi pour y promener mes micros en compagnie de l'équipe du Conservatoire. Après ces réjouissantes nouvelles, voici le sommaire de Toucher Terre. Et l'on reparle des nouveaux sites eurhéliens du Conservatoire, acquis fin 2020, le site de pelouse calcaire des Vaupirats à Charpon accueillait la sortie annuelle des conservateurs bénévoles de l'antenne eurhélienne en juillet dernier. Ce charmant coteau abrite lui aussi des cavités intéressantes et puis bien sûr de magnifiques orchidées. Après donc 30 ans d'existence, Eure-et-Loire Nature n'en finit plus de se renouveler. L'association qui mise depuis toujours sur la transmission accueille depuis cet été un apprenti. Maxence nous expliquera les avantages de cette formation par alternance au service de la nature eurélienne. Enfin, interview exceptionnelle dans la deuxième partie de Toucher Terre. L'entomologiste Vincent Albouy m'a accordé un entretien passionnant autour du livre qu'il a coécrit avec le journaliste Denis Richard, « Accueillir la faune sauvage au jardin », c'est sorti aux éditions Ulmer. Pour débuter ce numéro de rentrée, je vous propose donc une escapade bucolique à la découverte de l'un des sites récemment acquis du Conservatoire d'espaces naturels en Eure-et-Loire. Il s'agit du coteau calcaire des Vaupirats à Charpon. Comme je l'ai dit en introduction, on trouve à proximité de ce site des cavités intéressantes qui font déjà l'objet d'un suivi chauve-souris par plusieurs associations et par l'Office français de la biodiversité. C'est pour mieux connaître ce site qui abrite une station importante d'anémones pulsatiles, mais aussi plusieurs espèces d'orchidées, dont l'épipactis rouge sombre, que la sortie annuelle des conservateurs bénévoles du département avait lieu là-bas le 2 juillet dernier. Rattachés à un site, les conservateurs bénévoles sont, je vous le rappelle, les yeux et les oreilles du conservatoire sur place. Ils effectuent un suivi en fonction de leurs connaissances et de leur disponibilité. Nous partons à la découverte des Vaupirats en compagnie de Benoît Allard, directeur de l'antenne eurélienne du conservatoire, mais aussi de Bruno Landier, agent de l'Office français de la biodiversité, que nous avons déjà croisé à plusieurs reprises et toujours avec joie dans Toucher Terre. Vous entendrez aussi, chanceux que vous êtes, la voix de Pierre Boudier, administrateur du conservatoire et bien sûr botaniste émérite. Un reportage réalisé par Simon Martin que je remercie. Alors non, je n'étais pas en vacances, mais j'étais pour l'occasion juge et partie, puisque j'ai l'honneur d'être la conservatrice bénévole de ce site remarquable.
Bienvenue à cette réunion annuelle des conservateurs de sites d'espaces naturels en Eure-et-Loire, avec donc des conservateurs bénévoles qui vont se présenter dans le rapide tour de rien, puisqu'il n'y a pas de table, et donc des personnes qui participent en plus aujourd'hui exceptionnellement, donc des représentants de l'Office français de la biodiversité, plus deux adhérents du conservatoire qui se joignent à nous également pour cette sortie. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu où on est pour ceux qui viennent du sud et pour vous ayez une vision un peu plus globale à l'échelle du Drouet. Bah, vous voyez bien hein, l'ensemble de la vallée de l'Eure et les coteaux qui sont de part et d'autre de cette vallée. Et puis ensuite, d'autres coteaux qui sont plutôt sur l'Avre ou au niveau de la Blaise. Donc sur la commune de Charpon, hein, trois coteaux différents. Les côtes de Vaupira, qu'on va aller visiter aujourd'hui. La côte des Hérauts et la côte aux Prieurs. Donc effectivement, ces trois sites sur lesquels il y a eu pas mal d'acquisitions ces derniers temps. Ce sont des sites sur lesquels on travaille depuis 2019 en termes d'acquisition. Donc pour rappel, hein, le conservatoire a deux possibilités entre guillemets d'intervention pour les sites. Soit la maîtrise foncière, c'est-à-dire effectivement on achète des parcelles, soit la maîtrise d'usage, c'est-à-dire que les propriétaires restent propriétaires mais nous délèguent la gestion à travers différents types d'outils, de la convention jusqu'au bail emphytéotique. Donc là on est sur des propriétés conservatoires. Donc sur la côte aux Prieurs, qui est cette côte là qui longe vraiment la vallée. Aujourd'hui on maîtrise 4,8 hectares. Effectivement, tous les chiffres que je vous donnais là, c'est depuis 2019, donc c'est extrêmement récent. On n'a pas encore rédigé les plans de gestion parce que le foncier il est vraiment en mouvance quasiment annuelle. Sur la côte des Hérauts, qui est donc ici, on a 4,4 hectares. Et sur les Vaupira, on est à 3,2 hectares, ce qui fait quand même plus de 12 hectares à l'échelle des coteaux de Charpon. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que pour certains sites où on a démarré un peu plus tard, on n'est pas nécessairement à ce niveau de maîtrise foncière aussi avancé. Et ce qui est autrement intéressant, là on ne le voit pas nécessairement au niveau de la carte, mais en fait l'exposition de ces coteaux est complètement différente. Là celui qu'on va aller voir effectivement, de toute façon vous allez vite le sentir par rapport au soleil. Sur la côte des Hérauts finalement on est complètement opposé en termes de coteaux. Et sur la côte aux Prieurs, on est encore sur une troisième exposition, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement effectivement la même végétation, le même type de milieu, les mêmes enjeux. Donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir travailler finalement sur les trois coteaux en même temps, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc voilà, l'objectif, ce n'était pas de faire les trois sites aujourd'hui, parce que ce serait un peu compliqué. C'était de se concentrer sur celui-là, et j'ai convié du coup les personnes de l'OFB, puisque vous allez le voir en descendant, on a des cavités en fait à chauves-souris qui sont aussi présentes sur le site et qui sont suivies depuis de très longues années en hiver. Donc là, pour moi, l'intérêt c'était aussi qu'ils puissent présenter dans le cadre de la politique Natura 2000 ce qui était mis en place en termes de suivi annuel des chauves-souris. C'est bon pour tout le monde ? Ouais.
Approchons donc des cavités. À travers le broussailles et les orties.
Bruno, si tu veux nous faire un point sur ce que vous faites dans le cadre de Natura 2000 et des petites données espèces sur le site.
Ah bah écoute, ouais, pas de souci. Il faut savoir qu'à l'origine, bah, l'ONCFS à l'époque, avant la mise en place de Natura 2000, était opérateur en fait pour le document d'objectifs qui avait été créé pour mettre en place Natura 2000. Donc on a prospecté pas mal de cavités de Maintenon à Annette. Et ce site a été référencé parce qu'il avait une importance quand même en termes d'espèces et puis de nombre d'individus. Donc on a 9 sites sur la vallée de l'Eure qui ont été recensés. Celui-ci est un des plus beaux puisque bon, dans les années 2000, on avait quoi, 20-25 individus. Aujourd'hui, on arrive à 40. Alors, c'est pas pléthorique comme des zones comme le Perche ou la vallée du Loir où là, on arrive à des cavités où on a jusqu'à 400 individus avec une douzaine d'espèces. Bon, là, on arrive à 5 espèces, dont quelques-unes annexées au titre 2 de la directive Habitat. On a notamment le murat oreille échancré. On n'a pas énormément d'individus, une quinzaine de bêtes chaque année. On a le grand murin, le murin oreille échancré, les 3 espèces qu'on est à peu près sûr de trouver à chaque fois qu'on vient faire les recensements en hiver. Puis après, bon, on a des espèces typiquement forestières comme le murin de Bechstein ou la barbastelle qu'on rencontre occasionnellement, ou le grand rhino. Et il nous arrive des fois de trouver du murin de Dombenton. Enfin, en gros, 5-6 espèces à chaque fois qu'on vient sur le site. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu comparable avec ce qu'on trouve sur l'ensemble de la vallée de l'Eure, c'est que le nombre d'individus sur une vingtaine d'années nous semble en augmentation sur la vallée de l'Eure, même si on n'a pas des effectifs pléthoriques. Et encore une fois, ça reste quand même assez intéressant, quoi. Donc on a des données qui nous viennent. Maintenant, on a des données assez anciennes puisqu'on a 25 ans de recul sur le site. Donc voilà pour le volet chiroptère, Benoît.
On a parlé de chamallon, micro-vallon. Et il y a plein de chemins qui permettent de faire des circuits.
Vous êtes rendu compte, pour essayer d'arriver sur ce lambeau de pelouse, qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement très simple. Alors pour ceux qui sont conservateurs de cavités ou de zones humides, effectivement, ou de pelouses en bosse. Effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même type d'habitat. Donc, des coteaux secs avec une végétation très très particulière, adaptée aux conditions météorologiques chaudes, exposées plein soleil, avec un sol qui est très drainant. Et vous voyez, tout autour de nous, on est sur de l'arbustif hein, qui se développe. Dans les rédactions des plans de gestion, on essaie toujours d'avoir des éléments d'analyse sur l'évolution historique du site, pour voir aussi à quelle vitesse, comment il était il y a peut-être 50, 60, 70 ans. Et la plupart du temps, on était sur des espaces beaucoup plus ouverts, parce qu'ils étaient aussi utilisés parfois pour le volet agricole, hein, avec de l'élevage, ou autre chose d'ailleurs, peu importe. Et l'abandon fait qu'effectivement, au fur et à mesure, les arbustes s'installent, puis le boisement. On voit des restes de genévriers effectivement qui sont encore présents. Donc l'objectif derrière pour nous, c'est de finalement à l'échelle d'un site, et plus il est grand, plus c'est simple entre guillemets, ou en tout cas plus on a d'options en termes de gestion, c'est de trouver cet équilibre entre on maintient déjà les espaces qui sont ouverts, on essaie de gagner éventuellement sur ceux qui se sont fermés plus récemment parce qu'on va pouvoir retrouver de la pelouse. Et là où malheureusement c'est déjà trop développé en termes d'arbustif ou de boisement, on laisse évoluer effectivement vers un boisement qui en soi a aussi son intérêt en termes d'espèces végétales ou animales.
Sinon chez quoi ?
Sinon chez quoi, alors je c'est Y, M-A-C-H.
Le jardin de des montagnes, si tu retournes, les feuilles sont dans ça tout dessous là. L'autre, c'est pas le cas. Et puis l'autre, elle a. Oui, voilà, les feuilles sont bloquées.
Le germandrée des montagnes, la fleur.
Et il y avait de la germandrée.
Mais partout.
Ah, en fleurs ?
Et oui.
Oui, on peut les avoir. Non, c'est...
Bah, il y en avait...
Merci à Simon Martin pour la réalisation de ce superbe reportage et merci à tous les intervenants. Benoît Allard, directeur de l'antenne aurélienne du Conservatoire d'espaces naturels et Bruno Landier, agent de l'Office français de la biodiversité. Le conservatoire n'a cessé de proposer depuis le printemps dernier des sorties nature. J'espère que vous avez pu en profiter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas tout à fait fini et qu'en prime, nous entrons dans la période des chantiers d'automne, des chantiers participatifs qui vous permettent d'aider à la gestion des sites du conservatoire. Notez dans vos agendas ces deux derniers rendez-vous du calendrier d'activités proposé en 2022 par le Conservatoire. Alors tout d'abord, le samedi 8 octobre, un chantier à la tourbière des Frous à Manou pour contenir les envahissants touradons de Moligny. Rendez-vous à 10h en ayant soin de prévoir des vêtements chauds et peu fragiles, des bottes, des affaires de rechange et un pique-nique pour reprendre des forces parce que le chantier dure toute la journée. Et puis pour refermer la saison le 15, à partir de 18h30, venez vivre une expérience incroyable sur les côtes de Boncourt à Oullins, c'est tout au nord de notre département. Il s'agit d'un pique-nique crépusculaire pour lequel vous prendrez soin de vous équiper de vêtements chauds, de bonnes chaussures, d'une lampe torche, de votre repas bien sûr, et de vous laisser guider par vos sens. Un grand moment en perspective. Il convient pour ces deux propositions de s'inscrire au 02 37 28 90 91. Nous marquons une courte pause en musique avant de retrouver Maxence Pelletier, apprenti nouvellement arrivé au sein de l'association Eure-et-Loire Nature, et Vincent Albouy, entomologiste français de renom, qui évoquera le livre qu'il a coécrit avec Denis Richard et qui s'intitule « Accueillir la faune sauvage au jardin », sorti aux éditions Ulmer. Pour l'heure, voici la chanson « Pique-nique » des McGuire Sisters, que l'on peut entendre dans l'excellent film du même nom, sorti en 1955.
Picnic time with you.
stormy and lonely for me. I just recall picnic time with you.
Les sœurs McGuire avec Picnic. Eure-et-Loir Nature a 30 ans. L'association les a fêtés comme il se doit le 25 septembre dernier, mais ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Toujours très active, l'équipe salariée et bénévole peut depuis plusieurs semaines compter sur le renfort de Maxence Pelletier, ancien bénévole de l'association, aujourd'hui apprenti. Si la transmission a toujours été au cœur des préoccupations d'Eure-et-Loir Nature, qui accueille volontiers des stagiaires et autres services civiques, c'est la première fois que l'association reçoit un apprenti en alternance. Maxence, joint par téléphone, nous dit tout de sa formation et des avantages d'avoir un pied à l'école et l'autre sur le terrain. Bonjour Maxence et merci de nous répondre par téléphone. Alors je vais commencer par une question un petit peu directe. Qui es-tu Maxence ?
Alors bonjour à vous, bonjour à tous. Donc moi je suis Maxence Pelletier, j'ai 24 ans et depuis le 4 juillet je suis apprenti donc en alternance avec un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature, au sein de l'association Eure-et-Loir Nature située à Morenfé.
Alors Maxence, on a déjà reçu à plusieurs reprises des stagiaires chez Eure-et-Loir Nature. Là c'est la première fois qu'il y a un apprenti au sein de l'équipe. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta formation et en quoi c'est lié à ce BTS ?
J'ai commencé à discuter avec Eure-et-Loir Nature en début juin. Le BTS dans lequel je rentrais à la Ferté-Bernard, donc dans la Sarthe. J'étais obligé d'avoir un apprentissage, c'est une obligation parce que c'est une formation en alternance. Étant bénévole depuis 3 ans à l'asso, je voulais absolument être Eure-et-Loir Nature. Avant tout ça, j'ai eu une mauvaise expérience avec une autre association qui devait me prendre, et au final, il y a eu un petit problème qui a fait qu'ils n'ont pas pu me prendre. Donc voilà, en ce qui concerne ma formation, donc c'est un Bac plus 2, BTS JPN, donc gestion et protection de la nature. Le but, clairement pour moi, c'était de reprendre les études. Donc j'ai fait l'année dernière un Bac pro GMNF, donc gestion des milieux naturels et de la faune, parce qu'avant j'ai eu tout un parcours assez compliqué. Et donc le but vraiment, c'est de travailler dans l'environnement. Alors le rêve absolu derrière, ce serait d'être ornithologue. Mais ça, on verra dans le futur. Pour l'instant, je vais profiter de mes 2 ans d'apprentissage au sein d'Eure-et-Loir Nature et on verra après.
Alors, tu disais être bénévole pour l'association. Est-ce que toi-même, tu es originaire de l'Eure-et-Loir ?
Oui, je suis originaire du sud de l'Eure-et-Loir, dans le Perche exactement, en limitrophe avec la Sarthe et le Loir-et-Cher.
Alors souvent dans cette émission, on en sourit d'ailleurs assez régulièrement. On rappelle que l'Eure-et-Loir n'est pas forcément le département le mieux doté en ce qui concerne la nature. Est-ce que pour toi, c'est même plutôt une motivation supplémentaire, le fait de défendre cette nature et aussi de la faire connaître ?
Oui, clairement, parce que moi, je prends au niveau ornithologique, on sait que l'Eure-et-Loir est ce qu'on appelle une zone rouge. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espèces de trouvées, il n'y a pas beaucoup d'espèces d'oiseaux non plus. On n'est pas dans un pôle migratoire incroyable non plus. Donc, moi, en étant bénévole à Eure-et-Loir Nature, je suivais un site à Nogent-le-Rotrou, le site de la base de loisirs de Margon. Donc, je faisais un relevé ornitho, voire 2 par semaine à peu près. Et le but, c'est vraiment de montrer aux gens que, oui, on a des espèces, que ce soit pas que au niveau ornithologique, mais que l'Eure-et-Loir est riche malgré tout, malgré nos plaines agricoles en Beauce, malgré tout ça.
Revenons un petit peu à cette formule de l'apprentissage. Donc, tu nous disais que c'était par alternance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste, par exemple, une semaine type pour toi ? Comment ça s'articule ?
Ok, alors ça va dépendre des cycles, mais généralement, c'est 2 semaines d'apprentissage ou 3 semaines d'apprentissage et 2 semaines de cours. Donc en moyenne, c'est 2-2. Alors une semaine type, le lundi, quand j'ai cours en fait, cours théorique. Soit on va aller sur le terrain, et il y a des semaines aussi où on va avoir des chantiers de génie écologique. Donc on va restaurer des mares, on va restaurer des anciens ruisseaux, on va couper des espèces exotiques envahissantes, enfin, on va faire un tas de choses. Et en ce qui concerne Eure-et-Loire Nature, donc là, j'y ai travaillé 3 mois, donc j'ai pas eu le temps encore de revenir après 2 semaines de cours. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais là, je sais que quand je rentre le lundi, j'ai une mission. Puis je pense qu'après, le mardi, on fera le point. Et après, j'organise avec donc Eva Cherami et tous mes autres collègues la semaine selon ce qui peut me plaire, là où il y a besoin de monde. En fait, je vais être un peu partout avec des missions un peu plus ciblées. Mais je vais, oui, au sein de la nature, je vais être un peu partout. Je vais gambader un peu partout.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette formule? Est-ce que tu vois un avantage à être dans une formation par alternance?
Oui, alors, clairement, moi, comme je le disais, j'ai passé un bac ES il y a quelques années, en cours théorique, que du théorique. Je l'ai loupé parce que, je vais pas mentir, j'en avais un peu rien à faire. C'était pas forcément une formule qui me plaisait. Et du coup, j'ai voulu essayer l'apprentissage. Pour différentes raisons, je trouve qu'on apprend plus dans le milieu pro, plus les cours à côté. Ça fait vraiment un double apprentissage. Je trouve ça cool. Arrivé à 24 ans, il y a aussi les raisons financières. Hein. Je vais pas vous mentir parce que il faut que je paye un logement, il faut que je paye ma voiture, il y a plein de choses à la vie, quoi. Et donc, pour moi, c'était la formule la mieux et c'est celle où on apprend le mieux.
Justement, le fait d'être en contact avec les membres de l'association, qu'est-ce que ça apporte en termes de transmission? Et je rajoute une petite question dans la question. Eure-et-Loire Nature, c'est une association, donc il y a à la fois des professionnels et puis des bénévoles. Est-ce que l'apprentissage, finalement, s'effectue auprès de l'un et de l'autre?
Oui, je pense que autant bien mes collègues que des bénévoles vont m'apprendre. C'est aussi le but d'être Eure-et-Loire Nature. En arrivant là-bas, moi, j'adore l'ornithologie, donc ça fait 3 ans que je la pratique. Donc je voulais continuer de progresser en ornithologie, mais à côté de ça, je voulais acquérir des connaissances dans d'autres domaines, au niveau des libellules, des papillons, des plantes, un tas de choses en fait qui fait que on peut être considéré comme naturaliste, généraliste. Donc avoir des connaissances, en fait pour moi, c'est important d'avoir des connaissances dans tous les domaines et pas que dans un domaine, parce que forcément quand on a des connaissances dans un seul domaine, ça nous ferme des portes. Ce qui n'est pas le but pour moi, puisque ben voilà, déjà j'aimerais rester en Eure-et-Loire. Donc des associations en Eure-et-Loire pour la protection de l'environnement, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je pense que oui, les bénévoles vont autant m'apprendre que les salariés finalement, et ben, selon leurs différentes expériences, selon leurs taxons, selon plein de choses en fait.
Il y a aussi la question de l'âge. Maxence, tu nous disais tout à l'heure voilà, que c'est aussi une réorientation, disons, scolaire, en tout cas dans ton parcours. À 24 ans, est-ce que c'est facile de se mettre dans la peau d'un apprenti? Ça demande quand même une démarche, je dirais, d'humilité.
Oui, faut revenir aux bases, faut redevenir un petit scolaire. Je suis en cours avec des gens de moyenne de 18-20 ans, donc forcément un élève. Mais ça se fait honnêtement, quand on sait pourquoi on est là et qu'on sait ce qu'on veut faire derrière, je pense que ça nous motive plus. Et d'ailleurs, les profs le disent souvent, ils sont plus contents d'avoir des élèves un peu plus âgés, mais au moins ils savent pourquoi les jeunes sont là et pourquoi ils sont en cours et ce qu'ils veulent faire plus tard en fait. Donc forcément, on va être des éléments moteurs entre guillemets et on sera pas là à faire le bazar, à répondre aux profs, aux professeurs et tout ça. On est vraiment là pour travailler et on sait pourquoi on est.
Alors, tu nous disais vouloir rester en Eure-et-Loire. C'est pareil, c'est par conviction?
Honnêtement, je crois que c'est un choix un peu fou parce que il y a peu de monde qui veulent rester en Eure-et-Loire. Mais ouais, non, moi, je veux montrer toute la biodiversité qu'on a en Eure-et-Loire, qu'on a de la richesse et que c'est pas un département à fuir, au contraire, je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir, comme dans tous les départements de France, mais je pense que c'est encore plus vrai en Eure-et-Loire.
Très bien, et ben on se recroisera forcément dans cette émission qui essaye aussi de mettre cette nature en avant. Maxence, une dernière question. Eure-et-Loire Nature a fêté ses 30 ans, là, tout récemment. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs de Toucher Terre et qui hésitent peut-être encore à s'engager au sein d'une association et donc pourquoi pas d'Eure-et-Loire Nature?
Eh bien, Eure-et-Loir Nature, les 30 ans, c'était donc le 25. Moment convivial, on a eu beaucoup de monde, on a pu échanger, il y a eu trois conférences qui étaient super enrichissantes. Donc je pense que si vous voulez vous engager dans une association, foncez, parce que vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner au contraire. Ce sera forcément de l'apprentissage et vous aussi, vous apprendrez des choses et c'est ça qui pour moi est riche dans les associations.
Eh bien, merci beaucoup Maxence et puis alors bonne continuation à toi.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci à Maxence Pelletier que nous aurons sans doute l'occasion de croiser de nouveau au cours de son apprentissage au sein d'Eure-et-Loir Nature. L'association vous propose également deux rendez-vous nature en ce mois d'octobre. Notez le 15 de 10h à midi à Fontenay-sur-Eure, une découverte des oiseaux en automne sur les étangs et dans les bois alentours avec un ornithologue. Prévoyez des vêtements adaptés et des jumelles. Et puis, l'incontournable week-end champignons. Souvenez-vous l'année dernière de l'intervention de nos amis, les deux Thierry. Thierry Bizoir, mycologue, animera une sortie reconnaissance et collecte le vendredi 28 octobre à 9h30 en forêt de Montéco près de Châteaudun. Et puis tout au long du week-end, samedi 29 et dimanche 30 octobre, il y aura une exposition de champignons. Vous pourrez également, comme chaque année, apporter votre propre cueillette afin de la faire identifier. Ce sera de 9h à midi et de 14h à 18h aux plantes du Pays Dunois, horticulteur situé à Marboué. Comment accueillir la faune sauvage dans nos jardins? Comment le faire bien et à bon escient? Réponse tout à l'heure avec l'entomologiste Vincent Alboui qui m'a accordé un entretien consacré à son livre paru aux éditions Ulmer, coécrit avec Denis Richard. Une interview à ne surtout pas manquer, juste après The Dance, un titre qui figure sur l'album The Messenger de Kurt Elling. The Dance par les musiciens de Kurt Elling sur l'album The Messenger sorti en 1997. Vincent Alboui est un entomologiste de premier plan en France, ancien président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. Il est également auteur de plusieurs ouvrages sur les insectes, bien sûr, mais pas seulement, ses compétences naturalistes dépassant de loin ce seul domaine. Ainsi, nous avions pu l'interviewer pour la sortie aux éditions Delachaux et Niestlé d'un guide de la faune des villes, coécrit avec André Fouquet. Cette fois, je l'ai sollicité pour un livre qui est sorti aux éditions Ulmer, coécrit avec Denis Richard. Accueillir la faune sauvage au jardin, c'est une précieuse bible de 125 pages pour tous les amoureux de nature qui ont la chance d'avoir un petit lopin de terre ou même, vous verrez, un petit bout de balcon. Jardiner au naturel, Vincent Alboui et Denis Richard pratiquent depuis des décennies. Denis, que nous avions interviewé avec l'entomologiste Pierre-Olivier Macquart pour la sortie du livre « Il faut sauver nos insectes » paru chez Delachaux, a créé en 1998 le jardin des insectes de l'espace Réaumur à Poitiers. Vincent, quant à lui, en digne héritier du fameux Jean-Henri Fabre, a décidé lui aussi de cultiver un jardin sauvage. Ils nous livrent donc le fruit de leurs expériences et dispensent de précieux conseils. De nombreuses et superbes photographies illustrent cet ouvrage essentiel qui permet d'éviter les écueils et qui privilégie des pistes simples et efficaces pour devenir un allié de la faune sauvage et inversement. Bonjour Vincent Albouy.
Bonjour.
Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre ouvrage, c'est qu'il met à mal les idées reçues et qu'il tempère aussi les espoirs un peu trop grands. Pourtant, ça n'est pas un livre rabat-joie ou décourageant, loin de là, il invite même à la curiosité. Mais sans doute, ces mises au point étaient-elles nécessaires? Alors Vincent Albouy, accueillir la faune sauvage, oui, mais est-il important de se poser d'abord la question du pourquoi?
Évidemment, parce que sinon, si on ne sait pas pourquoi on veut accueillir cette faune sauvage, on risque de faire des bêtises, en quelque sorte, ou de se fourvoyer dans des impasses. Et puis, le pourquoi, c'est aussi se poser la question des conséquences, c'est-à-dire vouloir un jardin plein de vie, ça a aussi des conséquences qu'il faut accepter, c'est-à-dire d'avoir un jardin qu'on ne contrôle pas forcément comme on peut contrôler un jardin cultivé à l'ancienne ou... Justement, le sauvage est totalement exclu.
Alors, votre livre, c'est aussi et surtout le résultat de 30 ans de jardinage au naturel. Denis Richard et vous-même partagez avec vos lecteurs beaucoup de vos réussites et aussi de vos échecs. Il est expliqué dans l'introduction que vous avez commencé à expérimenter sur votre parcelle personnelle à la fin des années 80, vous aidant de deux ouvrages, dont un de Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste, comme vous. C'est d'ailleurs d'abord pour les insectes que vous vous êtes lancé.
Oui, d'ailleurs, j'ai commencé moi-même par une impasse, c'est-à-dire j'ai décidé de cultiver mon jardin pour les insectes. Et en fait, je me suis aperçu assez vite que justement, il ne fallait pas le cultiver pour les insectes, il fallait l'aménager pour les insectes. Que les meilleures plantes pour attirer les insectes, c'était les plantes spontanées qui venaient toutes seules, que je n'avais pas besoin de cultiver, et que celles que je cultivais n'étaient pas spécialement attractives, ou alors me demandait beaucoup de soins pour finalement pas grand-chose. Donc voilà, la première chose à prendre en compte quand on veut un jardin plein de vie, c'est de faire une place importante au sauvage et au spontané, et d'accepter de lever le pied, c'est-à-dire d'accepter de laisser une partie du pouvoir à la nature et de ne plus dominer totalement son jardin.
Justement, quelle pourrait être la première étape? Est-ce qu'il faut commencer peut-être par comprendre son jardin?
Oui, il faut commencer par comprendre comment fonctionne un jardin. Un jardin est un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre, on va dire, la partie minérale, le sol, le climat, les végétaux et les animaux. Et c'est toutes ces interactions qui font qu'un jardin va avoir tel ou tel aspect. Alors évidemment, on ne peut pas avoir un jardin méditerranéen dans la région de Lille et ni un jardin de bord de mer dans la vallée de Chamonix, mais deux jardins contigus, de deux maisons contigues peuvent être aussi très différents en fonction de la manière dont les jardiniers vont aborder la question et vont intervenir plus ou moins et de quelle manière ils interviennent.
Il faut aussi peut-être connaître la nature du sol, tout simplement, on ne peut pas planter n'importe quoi en fonction de ça.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire le fait de laisser... chez moi, quand j'ai laissé spontanément la végétation pousser, c'est justement la végétation parfaitement adaptée aux conditions qui a survécu. J'ai, en fait, à un moment donné, j'ai adopté une technique que j'appelle le semi-direct, c'est-à-dire, en fait, pour introduire des plantes, je les sème, je mets pas des plantes en pot, etc. Y compris d'ailleurs des plantes sauvages dont j'ai récolté les graines un peu partout. Mais après, je m'en occupe plus. C'est-à-dire, je laisse la sélection naturelle, fonctionner. Alors cette sélection naturelle fait que un certain nombre de plantes n'apparaissent jamais parce qu'elles sont absolument pas adaptées. Alors quand je dis n'apparaissent jamais, c'est-à-dire n'ont pas un développement suffisant pour que je la reconnaisse. Peut-être qu'elles ont germé quand même, mais que les plantules n'ont pas pu se développer normalement. N'apparaissent jamais. Et donc les mieux adaptées, elles, apparaissent très vite et fleurissent très vite. Et puis il y a une catégorie intermédiaire qui sont des plantes. Par exemple, j'ai des plantes que j'ai semées il y a 10 ans auparavant qui, d'un seul coup, sont apparues. Pendant 10 ans, les graines sont probablement restées en dormance parce qu'elles n'avaient pas les conditions nécessaires. Alors, c'est probablement des conditions météo. Et puis, d'ailleurs, elles peuvent redisparaître et réapparaître ensuite parce que on constitue, à partir du moment où une plante s'est reproduite et a produit des graines, ces graines au sol peuvent durer plusieurs années et ne pas forcément germer l'année suivante. Ce sont les variétés cultivées, les espèces cultivées dont on a sélectionné des graines qui n'ont pas de dormance, donc qui germent tout de suite. Les plantes sauvages, elles, ont des méthodes de survie très élaborées, avec notamment seulement une partie des graines qui peuvent germer dès la première année, le reste restant dans la terre et constituant ce qu'on appelle la banque de graines du sol, et pouvant germer parfois plusieurs dizaines d'années après leur chute sur le sol.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut aussi se réconcilier avec le temps long.
Oui, la nature, c'est du très rapide. Hein. Vous avez des plantes qui vont germer, fleurir, faire des graines en quelques semaines. Généralement, c'est les mauvaises herbes, c'est pour ça qu'elles nous embêtent, comme les sénessons, par exemple. Et puis, vous avez des plantes qui vont vivre sur le temps long. Vous avez des plantes qui ont des bulbes hein, qui ne réapparaissent pas forcément toutes les années. Bon, les arbres, eux, on a l'impression que ça ne change pas. Pour nous, le paysage arboré, c'est un paysage immuable. En fait, c'est parce que le temps des arbres est beaucoup plus long que le nôtre. Et donc, évidemment, on ne voit pas vraiment changer les arbres, surtout quand ils sont adultes. Encore un jeune arbre, on le voit pousser assez vite. Mais le temps humain est intermédiaire entre du temps très court et du temps très long du monde végétal. Et des fois, on a du mal, justement, à raccrocher les deux bouts et à le remettre au centre.
Alors, quels sont les milieux naturels qu'il est intéressant de recréer ou de favoriser et pourquoi? Et puis, à l'inverse, quels sont peut-être les milieux à éviter?
Alors, il n'y a pas de milieu à éviter, ce sont des pratiques plutôt à éviter. Ouais. Mais disons, les milieux qu'on peut trouver dans un jardin, il y a la haie, hein, la haie champêtre des bocages, mais en fait, souvent, les gens ont des haies en périphérie de leur jardin. D'ailleurs, certains chercheurs appellent ça le bocage urbain, même si ce n'est pas du tout les mêmes espèces évidemment, que le bocage traditionnel. Mais c'est bien de... Alors, c'est souvent des espèces exotiques, donc, et puis souvent, c'est une seule espèce. Alors, ce qu'il faut, c'est plutôt des espèces locales et mélanger les espèces pour avoir plus d'attractivité. Donc, on va dire la haie, premier écosystème, premier milieu, mini-milieu dans le jardin. Le deuxième, c'est évidemment... La prairie, le pacage d'origine, l'herbe qui se trouve sous forme de pelouse. Alors évidemment, c'est très réduit, ça tient plutôt du terrain de golf hein, que de la prairie fleurie alpine. Mais on peut faire évoluer en changeant quelques pratiques, une pelouse vers une prairie plus fleurie, en ne tondant que les aires de jeu et les passages, en laissant d'autres zones plus périphériques pousser en ne les fauchant qu'une fois par an. Et donc, on arrive à avoir des choses très sympathiques. On a aussi le potager. Le potager, ça représente une culture, une mini-culture, des mini-champs cultivés. Donc, les champs cultivés d'autrefois étaient très riches en biodiversité parce qu'il y avait des mauvaises herbes avant, après la culture, qui étaient difficiles à éradiquer. Maintenant qu'il y a eu les herbicides et la motorisation, c'est fini. Mais si on cultive différemment son jardin, sur ces zones où la terre est régulièrement remuée, on peut voir apparaître des choses sympathiques. Moi, dans mon jardin, par exemple, j'ai régulièrement des coquelicots, les bleus ont disparu, ils ne se sont pas maintenus, mais des fleurs comme ça qui sont très sympathiques et qui sont liées obligatoirement à la terre remuée. Hein. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, moi, quand j'ai aménagé dans ma maison, il y avait des coquelicots partout, maintenant, il n'y en a plus. Comment faire pour qu'elles reviennent ?» En fait, parce que les coquelicots sont des plantes adaptées au sol nu, donc les travaux de construction de la maison ont remué le sol et les coquelicots sont apparus en masse. Et puis après, on a semé une pelouse, donc là, ça coupe la terre n'est plus nue, le rayonnement solaire n'arrive plus jusqu'à la terre, donc les graines de coquelicots attendent. Et si demain... on retourne la pelouse, et ben, les graines de coquelicots regermeront, parce qu'elles sont là, elles peuvent durer plusieurs dizaines d'années, plus de 100 ans dans le sol, elles sont là en attente. Donc ce sont les conditions de sol nu qui font apparaître ces plantes-là. Donc un autre milieu qui est intéressant dans les jardins, bon, il faut qu'il soit un peu grand, enfin, on peut en mettre maintenant avec des bassins préformés un peu partout, c'est une mare, ou une mini-mare, puisque une vraie mare est quand même assez grande. Mais une mini-mare avec un bassin préformé, ça attire immédiatement une faune très intéressante, parce qu'il y a des insectes qui sont adaptés à coloniser les nouveaux milieux aquatiques. Hein. Les adultes sont ailés, donc les libellules, certaines punaises, certains coléoptères. Et donc, on a une sorte de mini-oasis dans le jardin qui sera très fréquentée parce que des insectes, des oiseaux viendront boire. On aura une petite flore aquatique différente qui fait un petit îlot de biodiversité originale. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, à l'inverse, on a le milieu plus sec, donc ce qu'on appelle traditionnellement dans les jardins une rocaille, donc une zone qui draine beaucoup plus vite quand il pleut et dans laquelle vont pouvoir pousser des plantes, là, au contraire, de milieu sec. Et puis, dernier mini-milieu, alors ce n'est pas vraiment un mini-milieu, mais disons que c'est un endroit très attractif pour la faune sauvage au jardin, c'est le parterre de fleurs. Si on a semé ou planté des fleurs mellifères, c'est-à-dire des fleurs à variété à fleurs simples qui sont encore productrices de nectar et de pollen et qui vont attirer là tout un tas de pollinisateurs depuis les abeilles jusqu'aux coléoptères en passant par les papillons, les mouches, les guêpes, les bourdons, etc. Donc le parterre de fleurs est une sorte de station-service au jardin à la disposition des insectes qui viennent boire le nectar sucré pour comme carburant de leurs muscles du vol. Donc c'est environ un quart des insectes de notre pays sont susceptibles de fréquenter les fleurs à l'âge adulte. Donc c'est une énorme, on va dire, c'est une énorme population potentielle. C'est pour ça que les parterres de fleurs en été peuvent être animés d'une très grande vie parce qu'ils concentrent beaucoup d'insectes qui viennent se nourrir dessus.
Alors vous conseillez, comme vous nous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, de privilégier pour les plantations des espèces indigènes qui sont trop rarement mises en avant dans les jardineries.
Oui, non seulement des espèces indigènes, mais si possible des espèces indigènes peu modifiées. Je m'explique, vous trouvez facilement dans les jardineries des soucis doubles, des bleuets doubles, ou triples, ou quadruples, des rostrémières pompons, des pâquerettes pompons, etc., qui ont peu d'intérêt pour les pollinisateurs, justement, parce qu'ils sont trop modifiés. Les pièces qui produisent normalement du pollen ou du nectar sont transformées en pétales supplémentaires. Ce sont des monstres horticoles. Donc, il n'y a aucun intérêt de les prendre. Il faut vraiment prendre toujours les variétés à fleurs simples. Alors, les pollinisateurs, par exemple, connaissent le langage international des fleurs. Vous mettez une plante à fleurs australienne dans un jardin, si elle produit du nectar, elle sera exploitée par les pollinisateurs locaux. Simplement, on s'aperçoit que si on leur met des plantes locales à côté, elles auront tendance quand même à préférer les plantes locales, qu'elles connaissent mieux apparemment. Et puis deuxièmement, l'espèce australienne ne nourrira que les pollinisateurs. Mais si vous preniez une vieille espèce de jardin, par exemple, soucis en colis, etc., ces fleurs-là, en plus, nourrissent par exemple des chenilles qui donneront des papillons. Donc on a une biodiversité beaucoup plus importante parce qu'il n'y a pas que la fleur qui entre en compte à ce moment-là, il y a aussi la feuille qui va nourrir d'autres végétariens. Et c'est d'où l'intérêt de prendre toujours des espèces locales. Et c'est pareil pour la haie. Par exemple, si vous mettez dans une haie un sureau, un charme, un érable, vous aurez toujours plus d'espèces que si vous mettez un laurier cerise et puis d'autres arbres ou arbustes qui viennent d'autres continents et qui, là, ne sont pas venus avec une faune associée végétarienne.
Alors, tout cela n'empêche pas de joindre l'utile à l'agréable. On ne laisse pas de côté pour autant l'esthétique.
Ah ben oui, on a de très belles choses en flore locale. Hein. Moi, j'habite la Charente-Maritime. Je peux vous dire que les étals de cartes postales sur l'île de Ré, c'est quasiment que de la rostrémière. C'est le symbole de l'île de Ré. Donc, c'est une vieille plante qui a probablement été introduite par les Romains. Elle est d'origine du bassin méditerranéen. Maintenant, elle a fait son trou. Elle est parfaitement adaptée à la faune locale. Donc non, vous avez de très belles choses locales. On peut se faire plaisir. On peut jouer sur toutes les couleurs parce qu'on a vraiment des fleurs. Par exemple, si vous cultivez dans votre potager des salades, des chicorées, laissez-en monter à graines une et vous verrez de superbes fleurs d'un bleu tirant un peu sur le violet apparaître. Elles mériteraient d'être dans un parterre de fleurs. Simplement, on les cantonne au potager, on ne les laisse pas fleurir puisqu'on les mange en salade. Mais il y a vraiment des surprises. D'ailleurs, c'est pareil, laissez le dernier poireau de la rangée, laissez-le monter à graines et vous verrez apparaître une super bombelle très attractif pour plein d'insectes qui seront ravis de venir la butiner.
Alors la question de l'entretien est aussi déterminante. Il faut résister à la tentation de tout contrôler tout en s'assurant de pouvoir tout de même profiter de son jardin comme on l'entend. Là, il y a peut-être la nécessité de respecter un certain calendrier.
Pas forcément de respecter un calendrier, mais d'avoir dans la tête une sorte de zonation de son jardin et de se dire tel endroit, finalement, j'y vais pas souvent, je l'abandonne plus ou moins à la nature sauvage, je le laisse faire avec un entretien qui sera uniquement annuel. Parce que bon, il faut être clair, dans notre sous nos climats, le stade ultime de la végétation, c'est la forêt. Donc si on a un gazon qu'on n'entretient pas, il va y avoir des plantes vivaces, puis il va y avoir des ronces, puis il va y avoir des arbres qui vont pousser, et puis au bout de 10 ans, c'est un bois impénétrable, hein, c'est un jeune bois impénétrable. Donc les espaces, on va dire, en herbe ou les espaces ouverts, il faut qu'ils soient entretenus au moins une fois par an pour être maintenus en l'état. Après, on n'a pas besoin de les entretenir plus qu'une fois par an pour ces zones un peu périphériques où on veut voir réapparaître beaucoup de sauvages. Par contre, chez moi, il y a des zones de circulation. Quand les filles, enfin maintenant, il y a les petits-enfants qui sont à la maison, ils ont leur aire de jeu qui est régulièrement tondue pour qu'ils puissent jouer. Donc, un jardin, ça reste un espace humain. C'est-à-dire que il faut faire une cohabitation avec la nature, mais chacun a son espace, en quelque sorte, chacun a sa pièce. Et donc, on entretient un peu plus la zone qui va être utilisée comme ça pour les jeux, pour la circulation. On entretient un peu plus les parterres fleuris. Si on veut justement des floraisons étalées sur toute l'année, on peut être amené à semer ou planter plusieurs fois par an. On entretient évidemment un peu plus un potager puisque on peut produire des légumes. Mais il y a d'autres zones où on peut laisser, la haie peut n'être taillée qu'une fois par an. Des zones périphériques n'être fauchées aussi qu'une fois par an. Enfin, voilà.
Alors l'un des enjeux, c'est aussi la création d'espaces pour accueillir cette faune sauvage. Et vous prévenez qu'en matière de nichoirs, qu'ils soient pour les oiseaux ou les chauves-souris, eh bien, le succès n'est pas toujours à la clé, en tout cas que les espèces ciblées ne sont pas toujours au rendez-vous. Pourtant, ces nichoirs, est-ce qu'ils présentent tout de même un intérêt ?
Tous les nichoirs présentent un intérêt. Le problème, c'est finalement, est-ce que les espèces visées sont présentes dans l'environnement ? Et si elles sont présentes, est-ce qu'elles subissent une crise du logement ? Parce que le nichoir ne fonctionne que si finalement l'oiseau n'a pas d'arbre creux à sa disposition. Sinon, il va toujours préférer l'arbre creux. Alors, pour les nichoirs qui copient l'arbre creux. Comme il n'y a plus beaucoup d'arbres creux dans l'environnement, on va dire, urbain, ces nichoirs-là vont être très souvent occupés. Donc, quand je pose des nichoirs boîte aux lettres, dits boîte aux lettres pour les mésanges, les oiseaux, enfin les moineaux ou les étourneaux, les moineaux l'utilisent peu d'ailleurs parce qu'ils ont le dessous des tuiles, etc. Mais les mésanges et les étourneaux, assez rapidement, les colonisent. Par contre, les nichoirs à chauves-souris, j'ai jamais eu un grand succès, mais en fait, les chauves-souris, elles nichent, elles ont des refuges estivaux, parce que c'est pas pour l'hiver, c'est pour l'été, elles ont des refuges estivaux chez moi, entre dans les fentes des poutres en bois, des linteaux de fenêtres. Donc en fait, elles n'ont pas besoin d'un nichoir parce qu'elles avaient déjà naturellement ce qu'il leur fallait pour s'abriter. Donc voilà, le succès d'un nichoir dépend aussi de... C'est pas parce qu'on va mettre un nichoir à chauve-souris qu'on aura des chauves-souris dedans. Encore faut-il, un, qu'il y ait des chauves-souris et deux, que ces chauves-souris n'aient pas d'autres abris plus intéressants pour elles à leur disposition. Mais n'importe quel nichoir qu'on peut mettre peut être squatté par n'importe qui. C'est-à-dire que mes nichoirs, par exemple, j'avais mis un nichoir à chauve-souris dans un chêne, c'est un mulot qui s'en était servi pour stocker ses réserves alimentaires de l'hiver. J'avais mis un nichoir à chauve-souris aussi sur le mur de ma maison. Il y a des mésanges qui ont été collés à un nid ou tentés de coller un nid parce que comme l'ouverture est par le bas, c'est pas évident quand même. j'étais quand même, à moins que ce soit d'ailleurs un troglodyte, parce que la fente est assez petite, mais j'ai des nichoirs à oiseaux qui sont utilisés par des bourdons ou par des guêpes, j'ai des nichoirs à merle qui sont utilisés, des nichoirs à mésanges sur lequel le merle, sur le toit duquel le merle construit son nid. Mon nichoir à rouge-gorge est une fois sur deux inoccupé, mais j'ai des rouges-gorges qui nichent sur l'étagère du hangar. Enfin voilà, les oiseaux, les animaux ont une propension à trouver des zones pour nidifier, des fois un peu spectaculaires, un peu étonnantes pour nous. Et c'est pas parce qu'on leur met un nichoir qu'ils vont aller dedans. Et puis tous mes nichoirs en hiver servent d'endroit de, on va dire, d'hivernation, d'abri pour tout un tas d'insectes qui survivent à l'âge adulte. Je pense notamment à des coccinelles, à des chrysopes, à des mouches, à des punaises, plus rarement à des papillons. Enfin voilà, donc le nichoir, c'est très intéressant, mais c'est pas, voilà, si on ne sait pas parce qu'on l'a mis pour la mésange que ce sera une mésange dedans, et on a toute une variété d'espèces qui peuvent être intéressées par ces espaces mis à leur disposition.
Alors, il y a des espaces que vous venez d'évoquer auxquels on ne pense pas toujours. Ce sont les bâtiments qui sont de moins en moins accueillants pour la faune. Alors là, certains propriétaires vont rétorquer qu'ils n'ont pas du tout envie d'être envahis par les souris ou encore de ramasser les fientes d'hirondelles. Pourtant, il y a des solutions pour cohabiter.
Alors, les souris, c'est difficile. Hein. Moi, personnellement, je ne cohabite pas avec les souris. Dès qu'elles vont trouver le chemin du garde-manger, je place un piège pour les exclure. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a des lignes rouges, quand même. Elle fait bien sympa, la faune sauvage, mais il y a des moments où elle abuse un peu. Donc, il faut dire stop. C'est comme les moustiques. Bon, je ne suis pas jusqu'à accueillir les moustiques dans ma chambre. Hein. Je les exclus de ma chambre. Mais, par exemple, pour les hirondelles, oui, il y a des solutions assez faciles à mettre en œuvre, notamment des planches anti-crottes qui font que les crottes s'accumulent sur la planche et on peut nettoyer ça une fois ou deux fois par an. D'autant plus que les hirondelles, la nidification est très courte, hein, et quelques 2 ou 3 mois au maximum au printemps et après c'est fini. Donc, d'autant plus que ce sont des espèces protégées. Donc, quand on a la chance d'avoir des nids d'hirondelles, il vaut mieux tout faire pour les garder que les exclure, au contraire, parce qu'elles sont vraiment très menacées. Les populations d'hirondelles ont chuté depuis 50 ans dramatiquement.
Alors, en parlant d'indésirables, un certain nombre d'insectes ne sont pas les bienvenus au jardin. On les considère comme nuisibles. Alors, y a-t-il vraiment des insectes qui causent de gros dégâts et comment peut-on les contenir?
Alors, il y a des insectes qui peuvent causer de gros dégâts parce que ce sont des végétariens qui s'attaquent à nos cultures. Alors, la méthode que j'utilise chez moi, c'est la lutte biologique par conservation, c'est-à-dire en gros, je favorise les ennemis naturels de ces insectes. Par exemple, je n'ai pas de problème de pucerons parce que j'ai des coccinelles, des chrysopes, etc. Cette lutte biologique a ses limites, elle ne marche pas forcément parce que il y a des moments où il y a des pullulations. Alors après, la nature fait bien son travail, hein, la pullulation est brisée par un parasitoïde ou un prédateur, mais le temps de la pullulation, le légume peut être totalement mangé, donc pour nous, par rapport à ce qu'on veut faire au jardin, évidemment, c'est gênant. Le principal problème que j'ai, moi, par exemple, c'est à l'automne. Au printemps, il n'y a pas de souci, les populations de pierrique du chou sont suffisamment faibles pour que j'ai pas de problème dans mon jardin, mais à l'automne, sur les choux de Bruxelles, les brocolis, je suis obligé de me battre contre les pierriques du chou. Bon, en gros, je passe de temps en temps voir les feuilles et j'écrase les pontes. Et quand les chenilles sont déjà éclos, je les retire à la main et je les évacue. J'ai une dizaine de choux, donc ça, c'est très facile à faire. Mais si je faisais pas ça, mes choux seraient sérieusement atteints. Et puis, il y a une deuxième catégorie de végétariens qu'on ne peut pas contrôler, ce sont ceux qui sont d'origine exotique d'un autre continent et qui sont venus sans justement les prédateurs et les parasites qui sont susceptibles de les contrôler. Par exemple, je n'ai plus de cerisier chez moi maintenant parce qu'il y a la petite mouche Suzuki qui est arrivée depuis 10 ou 15 ans en Europe, qui pond dans les cerises en formation et qui fait que quasiment toutes les cerises ont un asticot dedans, donc c'est plus possible d'avoir des cerises. Et là, il n'y a pas de solution. Plus de cerises.
Alors, les propriétaires ont aussi beaucoup de préjugés sur les frelons, qu'ils soient d'ailleurs européens ou asiatiques, et parfois même les guêpes ne sont pas non plus en odeur de sainteté. Alors, est-ce que pour ce type d'insectes, c'est un manque de connaissances? Peut-on et doit-on leur faire une place à eux aussi?
On peut leur faire, est-ce qu'on doit ? Non, c'est pas une obligation. On peut cohabiter d'une manière apaisée, sous quelques conditions. Bon, donc d'abord, il faut savoir que ce sont des espèces qui piquent pour se défendre et qui sont sociales et donc qui ont une agressivité particulière pour défendre leur nid. Donc en gros, elles vont piquer essentiellement pour défendre le nid, donc à proximité immédiate du nid. Elles peuvent aussi piquer quand elles sont sur la table et qu'elles viennent se nourrir de nos produits sucrés, là, puis qu'elles nous gênent, donc on veut les chasser. Donc là, elles prennent ça pour une agression, elles peuvent piquer. Sinon, il n'y a pas de raison. On les voit butiner les fleurs, on les voit chasser les chenilles. Elles ne viennent pas piquer, elles n'ont pas de raison. Le danger des piqûres, outre le fait des piqûres multiples, c'est toujours très désagréable, c'est que certaines personnes sont allergiques. Donc là, une personne allergique, elle ne peut pas cohabiter avec des guêpes ou des frelons. Il y a pas de, c'est trop dangereux pour elle. Mais la très grande majorité de la population n'est pas allergique. Donc on peut cohabiter à condition en fait que le nid soit suffisamment haut pour que les allées et venues des insectes ne risquent pas de heurter une personne. Quand le nid est plus bas, là, ça peut être dangereux, notamment les nids dans la terre peuvent être dangereux, surtout pour les enfants qui ne sont pas forcément conscients du danger. Donc là, une destruction peut s'imposer. Mais voilà, la destruction systématique dès qu'on a repéré un nid, ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir que donc, ce sont des espèces qui ont un gros impact sur les insectes du jardin, notamment les chenilles. Hein, en gros, la moitié de leur régime alimentaire, c'est des chenilles, l'autre moitié, ce serait des mouches. Donc voilà, ça débarrasse un peu. Pour le frelon asiatique, c'est particulier, c'est donc une espèce exotique d'arrivée récente. Il n'est pas plus méchant que les autres, pas plus dangereux que les autres, mais pas moins. C'est-à-dire que si on s'attaque à son nid, il va piquer avec des piqûres multiples. Donc comme il fait des nids, il peut faire des nids très bas dans les fourrés, ça peut être dangereux. Notamment pour les promeneurs, on a régulièrement des cas de randonneurs, par exemple, qui se font attaquer à proximité immédiate d'un nid de frelons asiatiques. Donc là, de toute façon, comme l'espèce est exotique et pose en plus des problèmes pour l'apiculture, quand on repère un nid de frelons, la destruction, à mon avis, est la bonne solution. Sachant que quand on les repère, souvent c'est à la chute des feuilles, c'est-à-dire quand la destruction n'a plus d'intérêt puisque les reproducteurs sont partis et puis le peu de frelons qui restent sont condamnés à mourir assez vite.
Alors dans le livre, et on l'aura compris à travers cet entretien, il est beaucoup question d'équilibre. On comprend vite que toute modification ou encouragement d'une espèce a des conséquences sur une autre ou sur le milieu. Alors comment trouver cet équilibre et comment repérer s'il est compromis ?
Ça, c'est beaucoup d'observations, et puis c'est des fois il faut laisser faire parce que le déséquilibre peut se rééquilibrer tout seul. En fait, moi, j'interviens peu parce que je me suis aperçu que souvent mes interventions soit aggravaient le problème, soit ne servaient pas à grand chose. Je cite toujours mon expérience avec les pucerons. On avait un rosier. Le long de la façade de la maison, un rosier grimpant. Ma femme aime beaucoup les roses. Et puis, bon, chaque année, elle me disait « Ah, Vincent, il y a plein de pucerons. » Donc, je faisais un petit traitement au savon noir sur les colonies de pucerons pour m'en débarrasser. Et puis, une année, pas de temps pour le faire. Donc, j'ai laissé tomber. Puis, au bout de 15 jours, j'ai eu du temps. Donc, j'ai sorti l'attirail. Et là, le savon noir ne marche que si on le vaporise, si on le pulvérise sur les insectes, parce qu'en fait c'est une pellicule qui va recouvrir l'insecte, qui va boucher les stomates, qui lui servent à respirer, et donc il va mourir étouffé. Donc il faut vraiment mettre sur l'insecte. Donc je sors mon savon noir et je cherche des pucerons pour pulvériser dessus, et j'en trouve quasiment pas. Donc j'ai tout remballé, je me suis posé la question, et l'année d'après j'ai surveillé. En fait, c'est parce que les mésanges bleus, comme j'ai des nichoirs, il y a toujours des mésanges bleus qui nient dans le jardin. Et en fait, c'est les mésanges bleus, au moment de l'élevage des jeunes, qui venaient prélever les pucerons. Et donc, c'est elles qui faisaient le ménage. Donc voilà, donc, je ne traite plus au savon noir depuis plus de 30 ans, depuis une trentaine d'années. Et par contre, j'ai toujours des nichoirs à mésanges bleus pour être sûr d'avoir des mésanges bleus.
Alors Vincent Elbouy, le jardin sauvage est-il toujours un grand jardin ?
Pas forcément. Moi, j'ai connu une dame... qui avait un appartement avec une terrasse au quatrième étage d'un immeuble du centre-ville de Reims. Elle voyait la cathédrale de sa terrasse. Et elle avait planté en pot plein de choses, un lierre qui grimpait contre le mur, plein de surtout des fleurs. Et elle m'informait régulièrement de la vie sauvage qui venait. Elle avait un merle qui nichait dans le lierre. Elle avait des papillons, elle avait des abeilles qui venaient au quatrième étage butiner ses fleurs. Elle avait des pucerons et des larves de coccinelle. Enfin, voilà, elle avait une terrasse sauvage en plein centre-ville de Reims. Donc, ce n'est pas la surface qui fait l'intérêt, c'est ce qui est planté. Parce que si elle avait planté des pétunias, des bégonias, des géraniums, qui sont des pélargoniums, en fait, elle aurait eu quasiment rien sur son balcon. C'est parce qu'elle a planté des fleurs sauvages, qu'elle a mis du lierre, qu'elle a obtenu cette diversité d'espèces, alors évidemment beaucoup moindre que ce qu'on peut trouver dans un jardin, un vrai jardin avec de la terre, avec un enracinement dans la terre, mais ça montre bien que les animaux sauvages répondent immédiatement dès qu'ils ont de la flore sauvage à leur disposition, et donc on peut obtenir des petites zones, des petits îlots de biodiversité, même de très faibles, sur quelques mètres carrés, à condition de le vouloir.
Alors justement, tous ces efforts pour accueillir la faune sauvage dans les jardins, est-ce que ça peut vraiment faire la différence et en tout cas contribuer à compenser en quelque sorte la disparition des milieux naturels?
Alors oui et non, c'est-à-dire non, rien ne vaut un vrai milieu naturel. Mais on a 13 millions de jardins en France. Si les 13 millions de jardins étaient cultivés de manière naturelle, ça ferait quand même une sacrée surface et ça ferait ce qu'on appelle une trame verte, c'est-à-dire que tout jardin individuel ne représente pas grand-chose, mais l'ensemble de ces jardins représenterait une sorte d'archipel de milieux qui permettrait à la faune, surtout à la flore aussi, puisqu'il y a des graines aériennes, de circuler de l'un à l'autre, de circuler aussi avec les milieux naturels en zone non urbanisée. Et donc, ça ferait quand même un sacré coup de pouce à la flore et à la faune, sachant que certaines espèces d'insectes, par exemple, peuvent survivre à long terme sur quelques centaines de mètres carrés. Ce n'est pas le cas des mammifères, des oiseaux, des reptiles, etc., des vertébrés. Ce n'est pas le cas de certains insectes, de gros insectes, mais il y a pas mal de petits insectes qui peuvent survivre dont les populations peuvent survivre à long terme sur des relativement faibles surfaces. Donc, ces jardins représentent en réseau, en quelque sorte, potentiellement quelque chose de très intéressant. Alors, on est loin d'avoir 13 millions de jardins naturels en France, mais le mouvement se développe depuis une trentaine d'années, et c'est non négligeable, et donc c'est bien, c'est la théorie de... Enfin, c'est la théorie. C'est ce que disait Pierre Rabhi, hein, chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Une goutte d'eau en elle-même ne compte pas, mais c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui font qu'on peut agir efficacement.
Eh bien, merci de nous aider dans nos efforts à travers donc ce livre « Accueillir la faune sauvage au jardin » coécrit avec Denis Richard aux éditions Ulmer. Merci Vincent Albouy.
Je vous remercie.
Un grand merci à Vincent Albouy et une pensée pour Denis Richard qui a coécrit ce livre aussi pédagogique que concret. Livre que je vous recommande vivement, même si vous pensez déjà tout savoir sur le sujet. Il est donc paru chez Ulmer en mars 2021. Il coûte 17 euros et vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies du département, parmi lesquelles nos amis de l'Esperluette à Chartres, de la librairie du coin à Châteaudun ou encore de la Rose des Vents à Dreux. Toucher Terre numéro 30, c'est fini. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur notre site internet radiograndciel.fr. Vous trouverez également les collections de Toucher Terre pour réécouter séparément tous les entretiens réalisés dans le cadre de cette émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Thank you.